Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ravi donc de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et donc, comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de la VOA Afrique.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et puis, nous retrouvons Amdine Sy à Columbus, c'est dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VRC.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir de basketball avec la Basketball Africa League, mais aussi de football et de cyclisme. Balle au panier donc pour commencer avec la Basketball Africa League. La conférence Nil l'a désigné. C'est quatre qualifiés pour les playoffs prévus du 20 au 27 mai à Kigali, au Rwanda, dans moins de deux semaines donc. Il s'agit de Petro de Luanda qui a fini premier avec 5 victoires en 5 matchs à la Ligue d'Égypte, deuxième avec 4 victoires en 5 matchs. Ferroviaro d'Abeira et Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud sont donc out. City Oilers de l'Ouganda et Seydou Legacy Athletic Club. Avant de revenir aux affiches des quarts de finale qui sont connues, nous parlons de cette conférence Nil. Jules, Petro a simplement dominé les débats dans cette phase.
Oui, bien sûr, et c'était attendu. Et Petro représente la nation et réellement qui a le mieux représenté l'Afrique dans les compétitions internationales et qui a fait du basketball et son sport phare, l'Angola. Donc, et certains joueurs ont été professionnels à l'extérieur, ils sont revenus jouer au pays. Et donc, c'est clair que nous avions là le favori indiqué pour animer la compétition. Et c'est normal que le Petro soit devant.
Alors, Élisée, des regrets peut-être pour les Guinéens quand même de Slack, Seydou Legacy Athletic Club, qui ont perdu, devant deux adversaires directs. Je vais parler de Ferroviaro d'Abeira et City Oilers, et Cape Town Tigers.
Bien évidemment, Yacouba, c'est d'ailleurs la grande déception puisque c'est presque les mêmes niveaux, mais ça c'est joué sur des détails puisque à un moment donné, l'équipe de Conakry a manqué de lucidité, a manqué d'adresse de par ses attaquants, j'allais dire, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est que de regret puisque l'objectif était d'aller du côté de Kigali pour une deuxième année consécutive. Vous imaginez, et la bonne affaire, c'est bien sûr Cape Town. Les Tigers d'Afrique du Sud et qui leur ont brisé ce rêve-là. C'est une déception. Legacy aurait pu bien négocier ces deux matchs contre les deux adversaires directs, comme vous l'avez dit.
Alors, Amdine, contrairement à la conférence Sahara, ici, il y a quand même eu, disons, deux équipes qui se sont détachées et les quatre autres qui devaient se disputer, disons, les deux dernières places qualificatives.
Tout à fait. Il y a Petro Athletic Club qui a balayé tout sur son passage et il y a aussi Al Ahly. D'ailleurs, le match qu'ils ont joué avait des allures quand même de finale. C'était un match époustouflant où Petro a remporté au buzzer. Donc, hormis ces deux équipes, il y avait trois formations pour deux places. Et je vous l'avais dit, Slack n'avait pas son destin en main puisque Slack était non seulement en quête d'exploit, il fallait battre Al Ahly et compter sur une défaite de Cape Town, et cela n'a pas été le cas. Donc, je pense que naturellement, les quatre meilleures équipes se sont qualifiées puisque Petro Athletic Club a survolé cette compétition. Il y a Al Ahly, Ferroviaro et Cape Town. Moi, je pense que les meilleures équipes se sont qualifiées. C'est dommage pour le Slack de la Guinée, c'est dommage pour l'Afrique de l'Ouest, mais c'est comme ça, on est en sport et les meilleurs doivent passer. Yacouba.
Les oppositions des quarts de finale sont connues. Le Stade malien affronte les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Élisée, avantage psychologique quand même, peut-être pour les Maliens qui ont fini premier de la conférence Sahara.
Ouais, contre toute attente, hein, devant des sélections comme l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire ou encore l'AS Douane qui jouait même à domicile. Et on se rappelle bien sûr de l'élimination surprise des tenantes du titre, l'US Monastir. Donc, le Stade malien Wafot a fait contre une équipe de Tigers qui est imprévisible, hein, il faut le dire. Puisque moi, je dirais que la conférence sera un peu au-dessus, hein, de celle du Nil. Mais bon, tout est possible en football, et le Stade malien va quand même jouer avec son équipe, avec ce qu'il a le plus, c'est bien sûr la collectivité, et je pense que ça va se jouer à quelques le Stade malien est une équipe difficile à manœuvrer, on l'a vu du côté de Dakar. Maintenant, en face, c'est une équipe qui a à peine fini une compétition et qui est véritablement en forme physiquement.
L'AS Douane joue contre les Mozambicains de Ferroviário da Beira. Amdine, cette rencontre est plus ou moins équilibrée, en tout cas sur papier.
Oui, sur le papier, c'est une rencontre équilibrée, mais attention, puisque l'AS Douane, je trouve l'équipe que je considère comme le bourreau des Sénégalais, puisque les Mozambicains ont déjà battu les Sénégalais à deux reprises. Ferroviário avait réussi à battre l'AS Douane lors de la saison inaugurale, la saison dernière. Ils sont venus battre le but à Dakar. Donc, c'est un bourreau des Sénégalais. Donc, il faudra faire très attention. C'est vrai que c'est équilibré, mais avantage psychologique aux Mozambicains, puisqu'ils ont déjà battu l'équipe qui les trouve. Ce match aura un parfum de revanche, par contre, pour les Gabous de la Douane, qui seront en quête de soi, puisque l'objectif, c'est de se qualifier en demi-finale. Et je pense que c'est possible, Yacouba.
Bien évidemment, tout est possible en sport, disait Élisée. Alors, Jules, par contre, hein, Abidjan Basketball Club aura fort à faire devant quand même Petro de Luanda.
Oui, en principe, avec le jeu que l'équipe ivoirienne a étalé et précédemment, il ne faudrait pas trop s'inquiéter. Et le Rwanda a un certain niveau dans la compétition, mais il est encore en pleine ascension. Et je crois que dans cette confrontation entre deux équipes qui cherchent à passer un palier et plus élevé, et les joueurs d'Abidjan ont l'avantage.
Et puisqu'on parle justement de rencontres équilibrées, Élisée, Alali, Rwanda Energy Group, là encore, ça sera un choc puisque les Rwandais évoluent à domicile.
Non seulement à domicile, mais je dirais que malheur à la Ligue du Quai de ne pas terminer en tête, hein, dans sa conférence, puisque Reg, c'est quand même un niveau plus élevé. Vous imaginez le Rwanda qui a commencé par s'intéresser véritablement au basketball, en témoigne les trois éditions, hein, les trois saisons de cette Basketball League Africa, non seulement, mais le palais qui abrite même la compétition, c'est quand même extraordinaire. Cette année, c'est une compétition équilibrée. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grands ténors comme l'US Monastir ou encore le Zamalek, donc ça reste ouvert. Et vous imaginez, le Petro Atlético de Luanda est proche d'un sac, tout comme Rwanda Energy Group qui s'est renforcé considérablement. Donc attention, ça va se jouer à quelques détails près, mais comme vous l'avez déjà dit, Reg va évoluer à domicile et cela pourra jouer en leur faveur.
Et puisqu'on parle de basketball, nous ouvrons une petite fenêtre, hein, pour parler du Camerounais Joël Embiid, MVP, meilleur joueur donc de la saison 2022-2023 ici en NBA. Il était proche l'année dernière et l'an surpassé, dominé par le Serbe Nikola Jokic. Amdine, Joël Embiid, enfin MVP, le deuxième Africain sacré depuis 1994, et le titre, hein, du Nigérian Hakim Olajuwon.
Oui, je pense que ce sac est mérité, hein, puisque si on regarde les statistiques impressionnantes, hein, depuis le début de la saison, il mérite ce titre puisqu'il tourne, hein, avec une moyenne de 33,1 points par match, 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,7 interceptions. Je pense que c'est un sacre vraiment mérité pour l'enfant qui est né à Yaoundé. D'ailleurs, c'est l'un des grands artisans des bonnes performances des Sixers cette saison, puisque non seulement il est en train de faire une saison phénoménale, mais il a aidé cette équipe à se qualifier pour les playoffs. Maintenant, son objectif sera de tout faire pour que Philadelphie gagne la NBA 40 ans après, hein, puisque depuis 40 ans, Philadelphie n'a pas gagné ce sacre. chapeau à ce jour qui fait la fierté de l'Afrique, Yakuba.
Gagner bien sûr la NBA, c'est la prochaine mission de Joel Embiid. Alors Jules, ce titre du Camerounais donne plus que jamais raison à l'existence de la Basketball Africa League.
Bien sûr, plus que jamais, parce que la matière première est réellement en Afrique et surtout quand on se rend compte que la NBA c'est quand même l'Olympe du basketball mondial où tous les grands tours d'or, pour ainsi dire, se retrouvent. Si on joue dans le même championnat que le mythique LeBron James ou bien Stephen Curry et le magicien Stephen Curry, ou alors que l'ex-Yougoslave Nikola Jokic, c'est qu'on est entouré vraiment des meilleurs. Mais l'autre leçon à tirer, c'est que quand même, Embiid est camerounais. Siakam, qui joue à Toronto et qui brille, est camerounais. Batum est binational franco-camerounais et joue à Portland. Alors on se demande si tout ce monde-là se reportait dans son pays d'origine, qu'est-ce que cela ferait. Et donc finalement, pour certains, ils se disent qu'il faut freiner un peu le pillage du vivier africain. De toutes les façons, en sport, c'est surtout une question d'équité.
Football à présent, avec les affiches des quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, qui sont connues. Le Burkina Faso a arraché hier dimanche le dernier billet pour les quarts de finale. Victoire 2-1 contre le Cameroun en demi-finale jeudi justement. Les étalons cadets affronteront le Nigeria et pour les autres affiches, on aura Sénégal, Afrique du Sud, Mali, Congo et le match très attendu Maroc-Algérie. Amin Birouk.
Tous les regards seront tournés vers ce quart de finale avec un duel très tricide entre le Maroc et l'Algérie à Constantine. On connaît un peu l'antagonisme politique entre les deux pays. Il y a déjà eu un précédent dans cette catégorie d'âge à l'occasion de la finale de la Coupe arabe où les Algériens avaient gagné au tir au but. Lorsque le temps réglementaire s'était conclu sur le score d'un but partout, le pays organisateur avait égalisé à Oran dans les arrêts de jeu. Il y a eu des incidents regrettables et on espère que la sécurité, l'organisation de la CAF veillera à ce que tout se déroule dans le meilleur esprit possible. Le Maroc a réussi à gagner ses deux matchs les plus importants de la phase de groupe, que ce soit contre l'Afrique du Sud ou le Nigeria, en faisant beaucoup de résistance contre les jeunes Super Eagles, avec un succès à la clé 1-0, avant de faire un turnover massif lors du match contre la Zambie, où il y a eu deux mi-temps distinctes. La première où les coiffeurs marocains l'ont emporté sur le score d'un but à zéro. La seconde où les jeunes Zambiens voulaient quitter la compétition avec le meilleur résultat possible et surtout avec les perspectives d'une victoire qui leur permettait ou qui leur permettrait de rentrer au pays la tête haute, se sont bien rachetés et ont pu inscrire deux buts l'emportant sur le fil en toute fin de rencontre. Donc cette confrontation sera donc décisive, d'autant plus qu'elle offrira le précieux sésame, c'est-à-dire la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. De la catégorie, il faut juste préciser que 4 pays devront représenter le continent et qu'ils émaneront des formations qui auront atteint le dernier carré de la compétition. Donc ce quart de finale aura une double signification et on verra dans quelle mesure les hommes de Saïd Chiba, qui ont fait forte impression lors de leurs deux précédentes sorties, vont tenir leur rang face à une équipe algérienne qui alternait le bon et le moins bon, un succès en ouverture contre la Somalie 2-0, un effondrement moins prévisible contre le Sénégal 3-0, un match nul sur le fil contre le Congo-Brazzaville après avoir été mené au score. C'est une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'insécurité et il va falloir maintenant qu'elle monte son curseur en termes de pression, d'intensité, d'un cran. Les Marocains n'ont rien à perdre, les Algériens auront la pression et on verra laquelle des deux formations réussira à composter son ticket pour la Coupe du Monde.
Voilà, une affiche donc à ne pas manquer. D'autres affiches aussi qu'il faudra suivre de près, Élisée. C'est bien évidemment Burkina Faso-Nigeria dans ce derby, en quelque sorte, d'Afrique de l'Ouest. Et puis le match Mali-Congo.
Oui, Burkina Faso, Nigeria, les Burkinabés qui ont écarté les Camerounais, qui ont renversé, j'allais dire, puisque les Camerounais menaient 1-0, les Burkinabés qui ont eu cette mentalité d'aller chercher les trois points de la partie. Le Nigeria, le pays le plus titré dans cette compétition et qui n'affiche pas encore une bonne forme jusque-là, mais tout est possible à partir des matchs à élimination directe. Et Yacouba, il faut dire que cette année, trois pays se sont détachés, en tout cas à mon avis, de trois pays qui peuvent disputer le titre de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal en tête, le Maroc qui a fait forte sensation jusque-là aussi, et surtout le Mali qui a battu non seulement le Burkina Faso, mais aussi le Cameroun. Donc vous imaginez, on aura de très belles affiches en quart de finale, mais attention au Sénégal, puisque là en face, il y aura l'Afrique du Sud qui jusque-là s'est bien comportée, surtout techniquement.
Justement, parlant de l'Afrique du Sud, alors Amdine, l'objectif des Lionceaux du Sénégal est connu, emboîter le pas des aînés qui ont tout raflé sur le continent. Jusqu'ici, tout va bien.
Tout va bien. Ils sont très bien partis, les jeunes Sénégalais qui ont survolé le groupe A en réalisant un parcours sans faute, puisque les Lionceaux ont battu d'abord en ouverture le Congo 1-0, l'Algérie 3-0. Et la Somalie 3-0. Si on regarde sur le plan comptable, c'est 9 points, 7 buts marqués, 0 encaissés. Donc le Sénégal fallait poursuivre son passage avec des joueurs qui sont en train de séduire. Je veux parler d'Amara Diouf et de Yaya Diémé. Mais attention, comme la vie Élysée, c'est une autre compétition qui commence, parce que ce sont des matchs à éliminatoire direct. C'est vrai que l'Algérie a dû attendre la victoire du Burkina pour se qualifier, mais comme on va vers des matchs à éliminatoire direct, il faut faire très attention pour pouvoir négocier ce match, pour pouvoir décrocher d'abord l'objectif de se qualifier en demi-finale pour se qualifier pour la Coupe du Monde, mais continuer sur cette lancée. C'est tout que vous l'avez dit, faire comme les aînés, l'équipe de U20 qui a gagné quand même la Coupe d'Afrique des Nations et l'équipe locale. D'ailleurs, le gardien de but et sur cette lancée, il a réalisé 3 tirs comme l'avait fait le gardien de l'équipe nationale des U20. Le Sénégal est bien parti pour quand même continuer sur sa lancée. Mais attention, attention encore une fois, Yacouba.
Voilà, dans cette compétition, il y a aussi un autre enjeu. Les 4 demi-finalistes se qualifieront donc, Amine le disait, pour le mondial des moins de 17 ans prévu à la fin de cette année. En Europe commence demain, 2 gros rendez-vous attendus, les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Du haut de ses 14 couronnes continentales, le Real Madrid, champion en titre 3 de haut, pour l'instant en tout cas, Manchester City au palmarès quasi vierge sur la scène européenne, mais qui s'impatiente de renverser la hiérarchie à Bernabéu demain, Amin Birouk.
Revanche ou remake, c'est en tout cas les attentes de l'une ou de l'autre équipe. Je veux parler de Manchester City, qui avait été éliminé en demi-finale la saison dernière par le Real Madrid au prix d'un retournement exceptionnel. On se souvient qu'après avoir gagné 4-3 lors d'une manche aller extraordinaire, les Citizens dominaient au tableau d'affichage 1-0 jusqu'à la 86e minute. Guardiola, trop confiant, ayant effectué des changements à vocation défensive, et c'est là où il y a eu ce retournement de situation qui n'arrive que très rarement dans le football et notamment en Champions League. Le Real l'a remporté, le club madrilène est allé jusqu'au bout de son destin avec une 14e Ligue des Champions, et il escompte conserver son titre après avoir réussi à sortir coup sur coup les équipes de Liverpool et de Chelsea. Mais cette fois-ci, Manchester City a d'autres atouts dans son jeu. Guardiola a solidifié son organisation défensive. C'est une équipe étanche. On l'a vu contre le Bayern lors de la double confrontation des matchs allés, des quarts de finale, pardon. Et on l'a vu surtout tout au long de la saison en Première Ligue. Le potentiel offensif a été décuplé avec l'arrivée de la terreur Haaland. Et on craint beaucoup les ravages que pourrait faire ce Viking des temps modernes. Car du côté de Madrid, Militao va manquer à l'appel, puisqu'il a écopé d'un deuxième carton jaune contre l'équipe de Chelsea, et il ne disputera pas la manche aller. Il faudra donc opter pour une charnière expérimentale composée de Rudiger et d'Alaba. Il faut juste rappeler que les Merengues sont auréolés de la Copa del Rey depuis samedi dernier, au prix d'une victoire très compliquée face à Osasuna Séville de Buzyn. Mais ils possèdent un trident qui fait peur également, avec les deux jeunes Brésiliens, Rodrigo et surtout Vinicius, l'expérience de Benzema et puis les tauliers du milieu de terrain que sont Kroos, Modric et Valverde qui sont capables d'avoir le tempo du match. Ce sera une bataille du milieu de terrain, ce sera une bataille de conception de jeu entre la possession de Guardiola et quelques variations aujourd'hui en transition avec Haaland et la capacité du Real Madrid d'enflammer le match, notamment devant son public au Santiago Bernabéu, dans l'optique d'une manche retour qui sera très difficile, très indécise à Manchester.
Voilà, une analyse assez complète. Alors, Jules, dans cette rencontre, il y aura un autre face-à-face. Celui, bien sûr, entre Karim Benzema, j'ai envie de dire le modèle, hein, et Erling Haaland, l'étoile montante quand même du football.
Oui, il faut dire que on focalise peut-être beaucoup sur Benzema, qui est un excellent attaquant, surtout très intelligent. Il a su profiter du dynamisme, de la fougue des jeunes Brésiliens qui sont autour de lui, pour faire jouer cette expérience et cette froideur face au but qui lui permet de convertir toutes les occasions pratiquement en but. Alors finalement, c'est une complémentarité parfaite. Donc je crois que Benzema aura un avantage sur ce plan-là sur Haaland, qui de l'autre côté est un joueur qui focalise l'attention sur lui et attire beaucoup de défenseurs. Et donc finalement, qui sera peut-être moins libre dans ses mouvements. Et dans ce cas, il faudrait que son équipe soit réellement en phase de domination absolue ou bien une domination relative pour qu'il s'exprime. Donc c'est un match où ça va se jouer à très peu de choses.
Voilà, un match très attendu bien sûr. L'autre demi-finale oppose ce mercredi deux clubs italiens dans un derby qui s'annonce fou. Amdine, l'AC Milan fait face à l'Inter. C'est un match électrique en vue.
Oui, un match électrique, un duel 100% italien. Et on sait que les débuts sont toujours électriques, surtout que le Milan a fait que Condé, hein, qui s'est pensé, Mike Maignan, qui est en train quand même de réaliser une saison phénoménale, et Olivier Giroud, qui, en bon renard des surfaces de réparation, et continue quand même de briller. Donc, ce sera un match très difficile pour les deux équipes. Pour moi, c'est du 50-50. C'est déjà un succès pour le football italien, puisque arriver à qualifier deux équipes italiennes à ce niveau de la compétition, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on attend cette demi-finale avec impatience pour voir ce que cela va donner. En tout cas, je pense que c'est une affiche alléchante et Yacouba.
En tout cas, on est sûr d'avoir deux affiches donc de taille dans cette demi-finale de la Ligue des Champions en Europe. Avant de refermer ce numéro de Sporama, on va parler de cyclisme et on prend la direction justement du Bénin et on retrouve Élisée Nkpatine. Élisée, le Tour du Bénin a connu son dénouement ce week-end.
Achraf El Dogni qui a succédé à l'Allemand Michel Marcel Pechers. Donc le tout a changé pratiquement de dimension. Yacouba, vous le savez très bien, depuis l'année passée, il est passé de 2.0 à 2.2 à l'Union Cycliste Internationale, d'où l'intérêt porté par les sponsors qui se sont quand même arrosés de la plus belle manière de ce tour. Ils sont très nombreux sur ce tour. Le président de la Fédération Béninoise de Cyclisme, Romain Razoumé, les a d'ailleurs félicités au terme de cette 18e édition courue dans les rues de Cotonou. Vous imaginez, avec le bon nombre de participations, avec des équipes professionnelles venues un peu partout de l'Afrique et même de l'Océanie. Donc, on a assisté à 5 grandes étapes. L'Algérien Hamza Yassine s'est illustré en remportant 3 des 5 étapes, mais vous imaginez que la stratégie mise en place par le directeur technique marocain a marché, puisque à chaque étape, le vainqueur de la première étape, Achraf El Dogni, est souvent dans le peloton de tête, arrive souvent dans le peloton. Vous imaginez donc ce qui lui a permis d'engranger assez de secondes. C'est ça qui lui a d'ailleurs permis de remporter cette 18e édition. C'est la première victoire des Marocains à un tour du Bénin. C'est une grande consécration. L'autre consécration, c'est bien sûr le progrès remarqué au niveau des cyclistes béninois. Ricardo Soujeré, qui a terminé 10e au classement général. Cela ne s'est plus produit depuis fort longtemps, depuis des années. C'est vrai que deux Béninois ont remporté le tour du Bénin, notamment Fernand Ganaro, qui est aujourd'hui entraîneur de cette équipe, et surtout le boy connois qu'on ne présente plus, les frères Ancinon, Eugène aussi, qui a remporté une fois le tour du Bénin. Élisée, donc c'est simplement extraordinaire.
Merci beaucoup Élisée, en tout cas c'est ici aussi que nous refermons ce numéro d'Esporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, justement Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngwe et Amdine Sy. Merci à vous chers auditeurs d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonard Sagno. Je suis Yacouba Ouedraogo, on va se retrouver la semaine prochaine, mais en attendant, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.